Chapitre 37. La première chose que fit Martin le lendemain fut de contrer la volonté de Brissenden. Il emballa la honte du soleil et l'expédia à The Acropolis. Il fondait encore ses espoirs sur les revues et pensait qu'une première publication dans un périodique lui servirait de lettre d'introduction auprès des maisons d'édition. Sur sa lancée, il posta également l'éphémère. En dépit des préjugés de Brissenden contre les magazines, qui étaient chez lui une véritable phobie, il avait décidé que ce grand poème devait être imprimé. Il n'avait évidemment pas l'intention de le faire publier sans la permission de son ami, mais il croyait qu'une acceptation par une revue de premier ordre l'aiderait à convaincre Brissenden. Ce matin-là, il commença une histoire qu'il avait esquissée plusieurs semaines auparavant et qui n'avait cessé de le hanter depuis. En apparence, ce devait être une histoire d'aventure marine, un conte du XXe siècle mettant en scène des personnages réels, dans un monde réel et une situation réelle. Mais, sous la trame romanesque, quelque chose d'autre transparaîtrait, quelque chose que le lecteur superficiel ne discernerait pas, mais qui ne diminuerait en rien le plaisir qu'il pourrait prendre à l'histoire. C'était cela, et non l'intrigue en elle-même, qui poussait Martin à l'écrire. Chez lui, l'intrigue était toujours subordonnée à un grand thème universel. Il ne pouvait commencer un récit que lorsqu'il avait trouvé ce thème. Il imaginait alors les personnages, délimitait le lieu et le temps de l'action en fonction de l'idée générale qu'il voulait servir. Son histoire s'intitulerait « Trop tard » et aurait la longueur d'un roman, plus de 60 000 mots, une bagatelle en regard de sa prodigieuse force de travail. Il s'attela à la tâche avec délices. Il connaissait son affaire, maniait ses outils avec maîtrise, sans craindre les faux mouvements. Ses longs mois d'apprentissage avaient porté leurs fruits. Il avait la main sûre à présent et possédait parfaitement ses tournures de phrases. Et plus le travail avançait, plus il avait la conviction de tenir son sujet avec toute la dimension cosmique qu'il voulait y mettre. Trop tard serait une histoire vécue, en ce qui concernait les personnages et les événements, mais l'anecdote ne serait qu'un prétexte à brasser de grands thèmes éternels, vrais sous toutes les latitudes. Grâce à Herbert Spencer, se dit-il en levant la plume pour une brève pause. Oui, grâce à Herbert Spencer et à la magistrale grille d'interprétation de la vie qu'il lui avait donnée, l'évolution. Ce qu'il était en train d'écrire promettait d'être grand. Il en était convaincu. « Ça va marcher, ça va marcher !» lui soufflait une voix intérieure. « Bien sûr, ça marcherait. Il tenait enfin le bon bout, les magazines s'arracheraient son histoire. Il avait déjà en tête toute la continuité narrative et il interrompit le fil de sa rédaction pour rédiger d'avance le dernier paragraphe dans un carnet. Le livre tout entier était déjà si parfaitement composé dans son esprit qu'il pouvait en écrire la fin avant même d'avoir terminé le premier chapitre. Il compara son histoire, encore à l'état d'ébauche, aux autres histoires de marins qu'il avait lues et la trouva infiniment supérieure. « Il n'y en a qu'un qui soit à la hauteur, » murmura-t-il, « c'est Conrad. » Et même lui, en lisant ça, pourrait venir me serrer la main en disant « Beau travail, Martin, mon gars. » Il travailla toute la journée et se rappela au dernier moment qu'il était invité à dîner chez les Morse. Grâce à Brissenden, il avait dégagé son costume noir et il était à nouveau présentable en société. Il s'arrêta en ville pour chercher des ouvrages de Saliby à la bibliothèque. Il emprunta le cycle de la vie, cet essai sur Spencer que Norton avait mentionné, et se mit à le parcourir dans le tram. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, la colère le gagnait. Le sang lui montait à la tête. Il crispait les mâchoires, serrait et desserrait le poing comme pour étrangler une bête immonde. Quand il descendit, il était furieux. Il se rendit chez les Morse d'un pas rageur et tira la sonnette avec une hargne qui le surprit lui-même. Riant de son propre emportement, il retrouva sa bonne humeur et entra avec le sourire. Mais sa jovialité fut de courte durée. À peine fut-il à l'intérieur que son abattement le reprit. Toute la journée, les ailes de son inspiration l'avaient porté vers les hauteurs et la chute fut brutale. Bourgeois, boutiquier. Les épithètes de Brissenden résonnaient encore à ses oreilles. Mais foin de tout cela, se dit-il. C'était Ruth qui l'épousait. Non sa famille. Ruth ne lui avait jamais paru si belle, si céleste et si pleine de santé en même temps. Ses joues avaient pris des couleurs et ses yeux l'hypnotisaient, ses yeux dans lesquels il avait vu l'immortalité pour la première fois. Il avait oublié l'immortalité depuis, ses lectures scientifiques l'en avaient écarté, mais les yeux de Ruth plaidaient pour la vie éternelle avec plus d'autorité que tous les raisonnements logiques. Aucun argument ne résistait face à de tels yeux, car ils parlaient d'amour et parlaient à ses propres yeux. Aucune philosophie ne pouvait réfuter l'amour. Telle était sa doctrine passionnée. La demi-heure qu'il passa avec elle avant le dîner le combla de bonheur et le réconcilia avec la vie. Mais, à table, il subit le contre-coup de ses fatigues de la journée. Ses yeux se creusèrent et il devint irascible. C'était à cette même table où il s'ennuyait si souvent à présent qu'il avait pour la première fois dîné avec des êtres civilisés faisant figure à ses yeux de parangons de culture et de raffinement. En un éclair, il se revit tel qu'il était alors, sauvage, pathétique et timide, suant la peur par tous les pores de sa peau, désorienté par les détails de l'étiquette, martyrisé par l'impitoyable serviteur, essayant gauchement de se hausser à un niveau social qui n'était pas le sien et décidant finalement d'être égal à lui-même sans prétendre se parer d'un vernis mondain qu'il ne possédait pas. Il regarda Ruth pour se rassurer, de même qu'un passager redoutant un naufrage dans un moment de panique cherche des yeux les bouées de sauvetage. Eh bien, il aurait au moins gagné cela, Ruth et l'amour. Tout le reste était un fiasco. Seule Ruth et l'amour avaient résisté à l'épreuve des livres. Il y voyait une sanction biologique. L'amour était l'expression suprême de la vie. À l'instar de tous les autres hommes, il était fait pour l'amour, ultime dessein de la nature, qui avait œuvré vers ce but pendant des milliers et des milliers de siècles. Pareil aux éphémères, il était venu au monde pour palpiter, s'unir et s'accoupler. Sa main chercha celle de Ruth sous la table, serment réciproque et complice. Elle lui lança une œillade aimante et radieuse. Dans son exaltation, il ne comprit pas que c'était lui-même qui avait allumé cette ardente lueur dans ses yeux. En face de lui, à la droite de M. Morse, trônait le juge Blount. Martin l'avait déjà rencontré plusieurs fois et ne l'avait jamais aimé. Il parlait politique avec son hôte. Tout y passait, les syndicats, la situation locale et le socialisme, un sujet sur lequel M. Morse essayait d'entraîner Martin. Finalement, le juge Blount regarda l'enfant du peuple avec une condescendance paternaliste qui fit sourire Martin.
« Ça vous passera, jeune homme, » dit-il d'un air entendu. « Le temps est le meilleur remède contre les emportements de la jeunesse. »
Il se tourna vers Morse.
La discussion est contre-indiquée dans ces cas-là. Elle amène le patient à s'obstiner.
C'est très vrai, approuva M. Morse avec gravité. Mais de temps en temps, il est bon de renseigner le patient sur son état.
Martin rit avec une bonne humeur feinte. La journée avait été longue, éprouvante, et il était un peu irritable.
Vous êtes sans doute tous deux d'excellents médecins,
fit-il, mais si l'opinion du patient vous intéresse, « permettez-moi de vous dire que vous êtes de piètres diagnosticiens. En fait, c'est vous qui souffrez de la maladie que vous croyez déceler en moi. Personnellement, je suis immunisé. La philosophie socialiste, qui promène son virus dans vos veines, ne m'a pas contaminé. »«
Très astucieux, » murmura le juge. « C'est très rusé de renverser les rôles dans une polémique. »«
Vous parlez pour vous ?» Martin avait l'œil incendiaire. Mais il gardait son sang-froid.
« Il se trouve, monsieur le juge, que j'ai entendu vos discours électoraux. Par quelque processus pitiatique.
Pitiatique, voyez-vous, est un de mes mots préférés que personne ne comprend.
Par quelque processus pitiatique, dis-je, vous vous persuadez vous-même que vous croyez à la compétition entre les hommes, alors que vous prenez toutes sortes de mesures destinées à tempérer la supériorité des plus forts sur les plus faibles. Jeune homme, attendez, n'oubliez pas que j'ai entendu vos discours. Vous avez pris position pour la régulation du commerce intérieur, contre le trust des compagnies ferroviaires et de la Standard Oil, pour la conservation des forêts et mille et une autres mesures restrictives qui sont tout bonnement socialistes.
Insinuez-vous que j'ai eu tort de protester contre ces divers abus de pouvoir ?
Là n'est pas la question. Je veux simplement vous montrer l'erreur de votre diagnostic et vous prouver que je ne suis pas atteint par le virus du socialisme. C'est vous, au contraire, qui souffrez de cette maladie émasculante. Quant à moi, je suis un adversaire invétéré du socialisme et de votre démocratie bâtarde qui n'est rien d'autre qu'un pseudo-socialisme déguisé sous un emballage de grands mots sans signification. Je suis un réactionnaire, mais vous êtes trop aveuglé par l'écran de fumée de votre propre charabia pour vous en rendre compte. Vous faites semblant de croire à la sélection naturelle et à la suprématie du fort sur le faible.
Moi, j'y crois vraiment. C'est toute la différence. Quand j'étais plus jeune, de quelques mois à peine, je croyais la même chose que vous. Vos idées m'avaient impressionné, voyez-vous. Mais les marchands et les négociants ne sont que des couards qui passent leur temps à mégoter pour s'enrichir. Alors, pardon, mais j'aime encore mieux l'aristocratie. Je suis le seul individualiste dans cette pièce. Je n'attends rien de l'État. J'attends tout du plus fort, du valeureux cavalier qui seul pourra sauver l'État de sa futilité pourrie. Nietzsche avait raison. Je n'ai pas le temps de vous expliquer qui était Nietzsche, mais il avait raison. Le monde appartient aux forts, non aux peseurs d'or qui grignotent des billets de banque dans la bouche de leur arrière-boutique. Il appartient aux vrais nobles, aux grandes brutes blondes, à ceux qui disent oui, et ils vous dévoreront, vous les socialistes qui avez peur du socialisme et vous croyez individualistes. Votre morale est faite pour les esclaves et elle ne vous sauvera pas. Oh, c'est du chinois pour vous, je le sais, et je ne vous ennuierai pas davantage. Mais sachez une chose, il n'y a pas une demi-douzaine d'individualistes dans tout Auckland, mais Martin Eden est l'un d'eux.
Il signifia que la discussion était close et se tourna vers Ruth.
« Je suis mort de fatigue, » lui dit-il à voix basse. « Tout ce que je veux, c'est aimer et non discuter. »
Il dédaigna M. Morse qui disait « Je ne suis pas convaincu, tous les socialistes sont jésuites. Voilà comment il faut les prendre. »
« Nous ferons tout de même de vous un bon républicain, » reprit le juge Blount.
« Le valeureux cavalier arrivera avant cela, » rétorqua plaisamment Martin, et il se tourna de nouveau vers Ruth.
Mais M. Morse n'était pas satisfait. La paresse de son futur gendre, dont il méprisait les idées sans les comprendre, et sa répulsion pour le travail légitime et honnête l'excédaient. Il orienta donc la conversation sur Herbert Spencer, et le juge Blount lui prêta main forte. Les oreilles de Martin se dressèrent, dès qu'il entendit prononcer le nom du philosophe, et il écouta en rongeant son frein la complaisante diatribe du juge Blount contre Spencer. De temps en temps, M. Morse jetait un coup d'œil à Martin d'un air de dire « Prends ça, mon garçon. »«
Mandibule radoteuse !» maugréa Martin dans sa barbe, tout en continuant de converser avec Ruth et Arthur.
Mais sa rude journée et la vraie fange de la nuit passée taquinaient ses nerfs. En outre, la colère que lui avait inspirée sa lecture dans le tram n'était pas encore retombée.
« Qu'avez-vous ? » lui demanda soudain Ruth, voyant qu'il faisait un effort pour se contrôler.
Au même moment, le juge Blount pérorait.
« Il n'y a de Dieu que l'inconnaissable et Herbert Spencer est son prophète !»
Martin lui fit face.
« Un peu court,
comme jugement, » dit-il avec calme.
Je l'ai entendu pour la première fois à City Hall Park, de la bouche d'un ouvrier qui aurait mieux fait de se taire. Je l'ai réentendu souvent depuis, et chaque fois, l'inanité de cette phrase m'a donné la nausée. Vous devriez avoir honte. Dans votre bouche, le nom de ce grand homme est comme une goutte de rosée dans une fosse septique.
Ce fut comme un coup de tonnerre. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Le juge Blount était au bord de l'apoplexie et M. Morse jubilait en secret. Sa fille était choquée. C'était exactement ce qu'il voulait. Enfin, pensait-il, enfin elle voyait ce ruffian sous son vrai jour. La main de Ruth chercha vainement celle de Martin sous la table. Il fulminait. La prétention et la nullité de ceux qui occupaient les plus hautes places de la société le mettaient hors de lui. Juge à la cour. Dire que quelques années plus tôt, il considérait ces gens comme des demi-dieux sur un piédestal de gloire. Le juge Blount retrouva une contenance et s'efforça de répondre à Martin avec une politesse hypocrite pour ne pas choquer les oreilles de ces dames. Cela ne fit qu'exaspérer Martin davantage. N'y avait-il donc aucune sincérité dans ce monde ?
N'essayez pas de discuter de Spencer avec moi !
Lança-t-il. Vous n'en savez pas plus sur lui que ses propres compatriotes. Mais ce n'est pas votre faute. L'ignorance est un vice à la mode. J'en ai eu encore un exemple en venant ici ce soir. Je lisais un essai de Saliby sur Spencer. Vous devriez le lire, c'est accessible à tous. Vous pouvez l'acheter en librairie ou l'emprunter à la bibliothèque publique. Vos misérables critiques ne sont rien en comparaison de toute la boue que Saliby a rassemblée sur le sujet. C'est un florilège de turpitude qui ferait honte à votre honte. Un philosophe académique qui polluait l'atmosphère l'a appelé le philosophe des demi-savants. Je ne crois pas que vous ayez lu 10 pages de Spencer, mais il y a eu des critiques, probablement plus intelligents que vous, mais pas mieux renseignés, qui ont mis ses disciples au défi de trouver une seule idée neuve dans tous ses écrits, dans les écrits d'Herbert Spencer, l'homme qui a marqué la science et la pensée moderne de l'empreinte de son génie, le père de la psychologie, l'homme qui a révolutionné la pédagogie au point que de nos jours, le petit paysan français est instruit selon les principes qu'il a édictés. Et les moucherons de votre espèce qui le piquent aujourd'hui ne se rendent même pas compte qu'ils font leur beurre des applications techniques de ses idées. C'est à lui qu'ils doivent le peu de vérité qu'ils ont acquise. Spencer, il n'y aurait que des notions fausses dans leur cervelle de perroquet. Et pourtant, un homme comme le recteur Fairbanks d'Oxford, un homme encore plus haut placé que vous, juge Blount, s'est permis de dire que Spencer resterait dans la postérité comme un doux rêveur et non comme un penseur. Des roquets et des radoteurs, tous autant qu'ils sont. Ses premiers principes ne sont pas complètement dénués de talent littéraire, dit l'un d'eux. D'autres ont prétendu que c'était un compilateur besogneux plutôt qu'un penseur original. Des roquets et des radoteurs, des roquets et des radoteurs. Martin se figea brusquement dans un silence de mort. Chacun, dans la famille de Ruth, considérait le juge Blount comme un homme accompli, et ils étaient tous horrifiés par l'esclandre de Martin. La suite du dîner fut aussi gaie qu'un enterrement. Le juge ne parla plus qu'à M. Morse, et le reste de la conversation fut extrêmement décousu. Plus tard, quand Ruth et Martin se retrouvèrent seuls, il y eut une scène. « Vous êtes insupportable, » gémit-elle en pleurs. Mais Martin était encore sous l'effet de la colère. Il ne cessait de marmonner « Les porcs, les porcs !» Quand elle lui reprocha d'avoir insulté le juge, il répliqua.
« Parce que je lui ai dit la vérité ?»«
Je me moque de savoir si c'est la vérité. Il y a certaines limites qu'on ne doit pas dépasser. Vous n'aviez pas le droit de l'insulter. »«
Et lui ? Avait-il droit d'insulter la vérité ? C'est bien plus grave, il me semble, que d'insulter un Olybrius comme ce petit juge à la manque. Ce qu'il a fait est 100 fois pire. Il a sali le nom d'un grand homme mort. Ah, les porcs, les porcs !»
Sa colère accumulée se réveilla. Ruth eut peur de lui. Jamais elle ne l'avait vu si furieux. Elle était mystifiée, désarçonnée. Mais, dans la terreur qu'il lui inspirait, passait encore la vieille fascination qui l'avait attirée et l'attirait toujours vers lui, cette fascination qu'il avait jetée dans ses bras et, dans un moment de folie, poussée à poser ses mains autour de son cou. Bien que blessée et scandalisée par ce qui venait de se produire, elle se blottit contre lui en frissonnant, tandis qu'il répétait en bougonnant « Les porcs, les porcs !» Et elle le tenait encore enlacé quand il déclara « Je ne m'assierai plus à votre table, ma chérie. Ils ne m'aiment pas, et je n'ai aucune raison de leur imposer ma répugnante présence, surtout que la leur me répugne tout autant. Bah ! Ils me font vomir. » Et dire que dans ma tendre innocence, j'avais cru que les gens installés, qui habitent des maisons cossues, qui ont de l'éducation et des comptes en banque, étaient des gens bien.